Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à une discipline qui semble plus que jamais menacée.
On espérait dès aujourd'hui les premières descentes, les premiers frissons. Les amateurs de ski alpin vont devoir prendre leur mal en patience.
Le premier géant féminin de la saison, prévu aujourd'hui à Solden en Autriche, est annulé en raison de la pluie.
Des compétitions annulées, de la neige amenée par camion pour une étape de la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand.
Ça fait des années que la station du Grand Bornand anticipe le manque éventuel de neige. Mais aujourd'hui, à quelques jours de l'organisation d'une épreuve de la Coupe du Monde de biathlon, la mise en place sur les pistes d'un enneigement non naturel crée cette fois la polémique.
Est-ce là le chant du cygne d'une discipline déjà malmenée par le réchauffement climatique ? Est-ce là l'illustration d'une forme d'inconséquence des institutions face à la menace ? Pour répondre à ces questions, un invité exceptionnel dans ce focus qui connaît très bien la montagne, les compétitions et pour cause, il a été sacré champion olympique à 5 reprises, s'est imposé 7 fois au classement général de la Coupe du Monde de biathlon. J'ai nommé Martin Fourcade, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette séquence du Grand Bornand, cette neige transportée par camion, et peut-être plus encore sur l'image qui lui a succédé, cette langue blanche qui fait office de piste de ski au milieu d'un décor tout vert, presque de prairie finalement. Vous avez ressenti quoi, vous, Martin Fourcade, en voyant ces images ?
Elles m'ont interpellé, surtout. Elles m'ont interpellé, d'autant que j'étais sur place. Je suis allé me promener en montagne le jour où la manutention de la neige a eu lieu, et notamment sur ces images en camion qui font tant parler. Et oui, ça m'a interpellé comme tout le monde, comme l'ensemble des acteurs sur est-ce que c'est quelque chose qui va dans le sens de l'histoire, et je crois qu'on a tous la réponse. Ensuite, j'ai aussi une lecture qui est, je pense, beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde qu'uniquement ces images qui sont dures à défendre. J'ai du mal à vous défendre ces images, j'ai du mal à les justifier, j'ai pas envie de le faire. Ensuite, je sais le pourquoi, je suis informé des process, de ce procédé qui est le snow farming dont on pourra parler. Voilà, je pense avant toute chose que c'est important pour moi de dire que je me cache pas derrière des œillères, que je ne critique pas du tout les voix qui s'élèvent, au contraire, je pense qu'elles sont une aubaine pour nous, mais je pense surtout que c'est une transition qui est extrêmement brutale. L'acceptation sociale de ce type de pratique est extrêmement brutale. Je prends souvent l'exemple du ski tunnel, qui est un tunnel à ski qui a été construit en 2010 en Allemagne, à Oberhof, qui est un tunnel réfrigéré de 2,5 km où on va skier à l'intérieur pour pouvoir pratiquer pendant l'été, pendant qu'il fait chaud. Ce tunnel, je l'ai découvert l'année de sa construction, en 2010, et je pense que j'y ai amené les 3/4 des journalistes sportifs français pour leur montrer à quel point cet outil était incroyable et à quel point les Allemands avaient de la chance d'avoir un écrin pareil pour pratiquer et pour se perfectionner. 12 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai une vision, je crois que nous avons, l'ensemble de l'industrie du ski a une vision qui est diamétralement opposée sur ce type d'outils qui nous paraissent être totalement en contradiction avec ce qu'on a envie de faire et de vivre. Et voilà, simplement pour dire que cette acceptation sociale en 10 ans, ce qui était incroyable il y a 10 ans est impensable aujourd'hui. Et juste remettre en perspective que c'est compliqué quand ça va si vite de demander à l'industrie, parce que le sport est aussi une industrie, et les sports d'hiver aussi, de s'adapter si rapidement. Donc voilà, encore une fois, c'est cette acceptation de la violence de ces images, et d'un autre côté, la lecture un petit peu plus complexe d'un problème qui est un peu plus global que ça.
Oui, une lecture plus complexe, dites-vous, mais pour qu'on soit très clair, aujourd'hui, dans une Coupe du Monde de biathlon, toutes les épreuves, comme au Grand Bornand, se tiennent grâce à la neige artificielle ou à la neige de culture ?
Alors c'est encore plus vaste que ça, parce qu'en fait, est-ce que le sport serait équitable ? Non, si on ne courait que sur de la neige naturelle, on va dire les revêtements sur lesquels on évoluerait seraient beaucoup trop changeants entre les athlètes au cours d'une même compétition pour qu'une équité sportive soit respectée. La neige artificielle aujourd'hui est présente sur 100% des sites de Coupe du Monde, sur 100% des compétitions. Le snow farming, donc
la neige de culture,
qui consiste à stocker la neige d'une saison sur une autre sous des copeaux de bois, pour la conserver pour la saison d'après et du coup le pouvoir l'étaler. C'est un procédé qui a 15 ans et qui aujourd'hui dans le cahier des charges de l'ensemble des organisateurs pour garantir la pérennité de l'événement. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des Coupes du Monde en début de saison, des Coupes du Monde au mois d'octobre sur des glaciers qui interpellent, notamment en ski alpin. Pour prendre l'exemple de ma discipline, parce que j'essaie pas du tout de me défausser sur les autres, il y a une compétition dans un stade de foot en Allemagne où on amène la neige par camion au milieu de la cité minière de Schalke en Allemagne et où on trace une piste dans ce stade de foot pour réunir ça. Aujourd'hui, ces compétitions-là, elles ont plus lieu d'être. Ça paraît des aberrations dans le monde dans lequel on vit. Sur les images dont on a parlé au Grand Bornand, je trouve qu'on est sur un contexte qui est quand même bien différent avec cette année on va dire un scénario catastrophe qui est un scénario sans précipitation sur le dernier mois, sans température froide qui ne permettent pas au canon de fonctionner et où du coup on utilise on va dire le dernier outil de la palette qu'il y en a, qui est de transvaser ce snow farming qui est situé un peu à l'écart du stade pour venir enneiger les pistes. Et ça, c'est vrai que c'est ce scénario qui est très défavorable, mais qui, pour moi, reflète pas non plus ce qu'on est en train de faire. Ensuite, si on a envie de parler de chiffres, si on a envie de parler de choses concrètes, et encore une fois, j'essaie pas du tout de défendre un système ou une industrie qui a trop vécu et qui essaie de tirer sur les dernières ficelles. Non, en tout cas, je le perçois pas du tout comme ça. On parle de 3000 litres de gasoil sur l'ensemble du coup du process de manutention. Donc, c'est sans doute 3000 litres de trop. Et on parle pour tout ce qui est fabrication, déplacement et manutention de la neige. Donc, tout ce qui est neige à canon, tout ce qui est transport et tout ce qui est damage. On parle de 0,8% du coût carbone de l'événement, de la Coupe du Monde du Grand Bornand.
Mais plus que l'impact carbone, Martin Fourcade, est-ce que ce n'est pas davantage l'idée d'organiser cette compétition à 900 mètres d'altitude, qui plus est avant Noël, qui interpelle, alors que l'on sait justement qu'à cette altitude, les stations sont vraiment en première ligne face au réchauffement climatique?
Alors, il doit y avoir des adaptations qui sont faites, certes, sur l'altitude des pistes, et c'est déjà le cas en fait. L'an dernier, en 2022, il y avait 10 étapes au calendrier de la Coupe du Monde de biathlon qui commençaient fin novembre. Cette année, il y en a 9 et la Coupe du Monde commence début décembre. On a raccourci la saison d'une semaine pour pouvoir la décaler un peu plus vers des sites enneigés. Pour le Grand Bornand, certes, c'est une station on va dire de moyenne montagne. C'est une station, et je le sais parce que j'habite à côté, où on skie tout l'hiver à proximité du stade de biathlon. On est peut-être que le calendrier qui peut interpeller, c'est celui on va dire d'une course avant Noël. Là-dessus, c'est bien sûr une réflexion qu'il faut avoir et qu'il faut ouvrir. Pour ce qui est on va dire de l'altitude de la station, j'ai l'impression que on n'est pas dans quelque chose de déraisonnable à vouloir organiser une course de biathlon à tout prix dans un endroit où il n'y a pas de neige. J'ai skié au Grand Bornand les 3 dernières saisons sur le site de compétition avec de la neige tout au long de l'hiver. Voilà, ce qui interpelle, c'est encore une fois, c'est peut-être le calendrier à une semaine près, et c'est un choix pour de multiples raisons, mais qui n'est pas un choix qui est lié à la volonté des organisateurs. Si les organisateurs pouvaient organiser la Coupe du Monde du Grand Bornand mi-janvier, ils le feraient, ou mi-février, ils le feraient.
Alors justement sur cette question de l'organisation des compétitions, dans une autre discipline, le ski alpin en l'occurrence, un Français a récemment pris la parole, le champion olympique de descente, Johan Claret, très critique hein, concernant l'organisation dès la fin octobre d'une nouvelle course. Il avait dénoncé dans RTL Soir un non-sens dans le calendrier à l'heure du réchauffement climatique.
Essayer d'organiser une course de Coupe du Monde à cette période, c'est vraiment, pour moi, c'est une hérésie en tout cas. C'est sûr que ça va pas dans le sens qu'il faudrait.
Et quelques jours plus tard, d'ailleurs, la course, justement, avait été annulée, faute de neige. Quand les skieurs en première ligne lancent ce genre d'alerte, est-ce qu'ils sont entendus, Martin Fourcade? Est-ce qu'ils sont écoutés?
Alors, je crois que ça n'a pas été le cas pendant un long moment. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus possible de faire différemment, que ce soit écouter les athlètes ou écouter on va dire l'opinion populaire. On peut plus se passer de ça. Et je crois que les institutions ont commencé à faire leur révolution de ce point de vue-là. Je cite souvent l'exemple des prochaines candidatures olympiques, hein, après un cycle qui a été, on va dire, marquant d'un point de vue sociale et écologique. Si on regarde le futur des attributions aux Jeux, on parle de Paris en 2024, on parle de Cortina Milan en 2026, on parle de Los Angeles en 2028, de Brisbane en 2032. Voilà, on parle de candidatures olympiques qui reposent sur 100% ou 95% d'infrastructures déjà existantes dans des endroits où il y a pas, où il faut pas partir d'une feuille blanche. Et je crois que les Jeux olympiques d'hier ont été fastes, ont été ceux de cette époque, et que je crois que toutes les institutions ont compris que si elles voulaient survivre, c'est désormais aux compétitions et aux institutions de s'adapter au lieu et aux personnes, et non l'inverse. Et j'ai l'impression que la mutation dans ce sens-là a été faite. Et en tout cas, quand on voit ce qui se passe en ce moment socialement au Qatar, j'ai du mal à croire que ce type d'événement puisse être viable à l'avenir.
Et puisque vous parlez d'avenir, Martin Fourcade, je voudrais, pour se projeter, que l'on écoute ce que disait sur RTL au micro d'Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol, un autre champion olympique, le slalomeur Clément Noël, qui témoignait des changements déjà constatés ces dernières années en altitude.
On voit la différence sur nos glaciers en Europe, de ce temps qui passe et qui fait que, au fur et à mesure, on voit de moins en moins de neige, on voit de moins en moins d'épaisseur de glace sur nos glaciers. Je suis allé fin août à Tignes,
On peut plus s'entraîner,
on
hein.
peut plus s'entraîner à Tignes, le glacier a vraiment vraiment ramassé. Et en fait, on se remémorait, ouais, il y a une dizaine, douzaine d'années, où on pouvait skier à des endroits que maintenant on peut même pas imaginer qu'il y avait des pistes de ski.
Des glaciers, donc, on l'entend, hein, fragilisés. Aujourd'hui, d'ailleurs, les experts évoquent la disparition de 94% des glaciers alpins d'ici 2100. Votre sport à vous, Martin Fourcade, le biathlon se pratique à une altitude bien moindre. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre discipline?
Si on parle en termes de pratique, je pense qu'à moyen terme, la pratique n'est pas du tout remise en cause. De la même que voilà, sur l'ensemble de l'activité des sports d'hiver, qui s'est adaptée, voilà. Donc moi, je suis assez bien placé pour parler de ça, parce que aujourd'hui, moi, j'ai une pratique qui a totalement évolué. Je renie rien de ce que j'ai fait, de ce à quoi j'ai participé. Aujourd'hui, je suis en montagne tous les jours, à skier quasiment tous les jours. J'ai une pratique, le ski nordique, qui n'est très peu équipé en neige de culture. Et j'ai une pratique, la montagne, qui ne nécessite aucune installation et aucun aménagement. Donc, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que les pratiques sont variées, et que en tout cas la montagne et son rapport à la glisse sont encore de belles années devant elle. Et ça serait justement pour moi un danger de vouloir, par des décisions radicales, mettre fin à tout ça. Et je pense qu'on aura du mal à faire notre transition si elle est faite uniquement dans la violence.
Alors, vous évoquez du moyen terme. Malgré tout, certaines stations, elles, voient la menace à court terme, hein. La station du Métabier, par exemple, dans le Jura, a annoncé au début de l'année la fin du ski alpin pour 2030-2035. On n'est plus tout à fait là sur le même calendrier.
Oui, c'est plutôt des courts termes. On parle d'une autre discipline avec des besoins d'enneigement qui sont encore différents. Sur des stations qui sont en très basse altitude, parce que c'est le cas de Métabier. Là-dessus, la question n'est pas la même. Si vous me posez cette question, est-ce que l'avenir du ski alpin à très basse altitude est remis en cause dans les prochaines années? Ma réponse est oui.
En préparant ce podcast, Martin Fourcade, je suis tombée sur une interview de votre frère Simon, lui aussi biathlète, qui disait « Je n'ai plus peur de ne plus pouvoir skier, je l'ai déjà intégré, il faudra faire avec. » Et vous, Martin Fourcade, est-ce que vous avez déjà fait en quelque sorte votre deuil du ski?
Non, on n'est pas toujours d'accord avec son frère, comme
Mais
quoi. Non, pour deux raisons, comme je vous le disais, parce que je pense que certes les cycles d'enneigement sont moins nombreux et plus courts, mais que il y a certaines périodes de l'année où on pourra toujours continuer à skier pendant de nombreuses années. Une autre raison est celle que depuis tout petit, de toute façon, on doit s'adapter de par notre activité. Voilà, on parle du ski, c'est une activité qui est disponible 5 mois dans l'année. Donc on a toujours su faire différemment les 8 9 mois qui restaient. Donc voilà, ça fait, en fait, d'avoir une saisonnalité, d'avoir de la neige à certains moments et de pas en avoir à d'autres, a toujours fait partie de notre culture et de notre mode de pratique. Aujourd'hui, je recherche pas la neige à tout prix. Je suis bien sûr très heureux qu'il y ait une chute de neige qui se produit début décembre, mais si je devais attendre le 15 janvier pour essayer de faire mes premières sorties en montagne avec des skis, ça fait partie aussi de l'acceptation de cet environnement-là et de cette évolution qui sera, voilà, qui va être subie de toute façon et sur laquelle on ne peut pas grand-chose.
Alors aujourd'hui, parmi vos autres attributions, Martin Fourcade, il y a aussi le CIO, le Comité international olympique. Vous êtes membre de la commission des athlètes. Pour préparer justement la transition de votre discipline, est-ce que vous seriez prêt à proposer une épreuve de biathlon version estivale, que le ski roue que les biathlètes pratiquent, hein, régulièrement pour s'entraîner les mois sans neige devienne une discipline des Jeux d'été?
Alors, je suis organisateur d'une compétition de ski roue à Annecy le premier week-end de septembre, le Martin Fourcade Nordic Festival, où on réunit dans le centre-ville d'Annecy les meilleurs biathlètes mondiaux et où on leur permet de s'exprimer au cœur de la ville sur une structure temporaire et sur des skis à roulettes. Donc, c'est une activité que j'adore. Pour revenir et répondre à votre question, non. Non, pour deux raisons, parce que je pense que ce temps-là n'est pas arrivé et que peut-être ça sera le cas un jour et j'espère ne pas le vivre on va dire de ma vie d'homme, mais en tout cas je pense qu'on n'est pas assez de croisée des chemins là en termes de on va dire de pratique des sports d'hiver. La seconde est que c'est un sport de substitution pour moi. Ça a toujours été le sport que j'utilisais pour pouvoir patienter avant de retrouver la neige. Donc c'est certes un sport qui est très proche du mien, un sport qui je pense a de l'avenir de ce point de vue-là, mais ma sensibilité peut-être de vieux con, hein, et que c'est pas du vrai biathlon. Du vrai biathlon, il y a de la neige, il y a ce rapport à la glisse qui est si particulier, il y a ces conditions, il y a voilà, c'est difficile à expliquer, hein, et c'est pour ça que que le sujet dont on parle est si délicat. On se retrouve tous en permanence, et encore une fois, là je sors de l'analyse purement sportive, mais face à nos propres contradictions sur nos modes de vie, sur qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui ne l'est pas, je crois que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée pendant l'épidémie Covid, et je crois que le plaisir qu'on a tous eu à retourner voir des concerts, à retourner voir des compétitions sportives, nous a montré qu'il y avait un rôle social qui était bien plus important que celui qu'on pouvait l'imaginer, et que de classer dans la catégorie de qu'est-ce qui est vital et qui doit continuer, et qu'est-ce qui ne l'est pas et qui doit être arrêté de suite, est dangereuse pour nos sociétés. Quand on m'avance l'argument que les Jeux Olympiques en soi sont un événement qui ne doit plus se produire parce que réunir des athlètes du quatre coins du monde sur un même lieu tous les 4 ans est quelque chose qui n'est pas soutenable écologiquement. J'ai envie de mettre en opposition voilà, cette balance sociale à la balance écologique, cette balance sociale qui nous montre aussi que on a pour vivre ensemble, on a besoin de se connaître, on a besoin de se retrouver, on a besoin de s'accepter, et quand on voit ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, quand on voit ce qui se passe dans les trop nombreux conflits qui se déroulent à l'échelle planétaire, on se dit que d'avoir des événements, et il n'y en a pas beaucoup, et sans dire qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois que les Jeux Olympiques sont le seul événement qui permet de réunir le monde entier autour des valeurs de fraternité, autour des valeurs de tolérance. Si demain on venait à devoir se passer de ça, ben je suis finalement tout aussi inquiet de la façon dont nos sociétés vont pouvoir vivre ensemble que de la montée des eaux.
Une dernière question plus personnelle, Martin Fourcade, vous n'êtes pas qu'un ancien athlète ou un membre du CIO, vous êtes aussi un papa. Vous leur apprendrez à vos enfants, vous leur apprenez peut-être déjà à faire du ski?
J'ai 3 enfants, deux filles qui ont 7 et 5 ans, et un petit garçon nouveau-né qui.
Félicitations.
Merci. Qui, je pense, comme tout parent. Un petit peu soucieux pour ses enfants, me fait poser à chacune de mes actions justement cette question écologique et me fait regarder en face mes contradictions un peu plus tous les jours. Pour ce qui est de est-ce que mes filles et mon garçon apprendront à skier, mes filles ont déjà appris à skier et j'espère que mon petit garçon aura aussi cette chance. Quand je parle de skier, je ne parle pas forcément de ski de compétition, mais je pense du plaisir d'appréhender cette sensation de glisse. Et je crois plus encore, parce que ça fait partie de mon éducation et de ma pratique, ce plaisir de découvrir l'environnement dans lequel elles évoluent sur des pistes de ski de fond au contact de la nature, des animaux, d'un monde dans lequel on évolue. Donc la réponse est oui, 100 fois oui, et même si la neige venait à se réduire, mes enfants, je continuerai à essayer de faire apprécier ces moments-là qui sont pour moi si intenses et qui m'ont tant nourri à mes enfants, totalement déconnectés de toute compétition.
Merci à vous,
Merci.
Martin Fourcade, d'avoir témoigné dans ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL, que vous pouvez, comme tous les autres épisodes d'ailleurs, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.